Pierre-Bernard Raymond, vous êtes venu à Manosque parler de l'Europe. Vous avez parlé aussi des lenteurs administratives de l'Europe et du manque de démocratie au sein de l'Union européenne.
Oui, je crois que l'Europe aujourd'hui a besoin de relever plusieurs défis. D'abord, il y a des défis mondiaux, évidemment, qui sont très importants, mais aussi un défi d'efficacité sur le plan intérieur européen. Et développer la démocratie, d'abord. Je pense qu'il faut que le président de l'Union européenne soit élu par tous les parlementaires d'Europe. Je pense que le président de la Commission européenne doit être élu par les membres du Parlement européen. Et puis, il faut que l'Europe entre dans la vie quotidienne de chacune et de chacun d'entre nous. Et puis, il faut aussi éviter un peu les caricatures, parce que c'est trop facile de dire quand c'est bien, c'est moi qui l'ai fait, et quand c'est pas bien, c'est la faute à Bruxelles. Et ça, c'est très fréquent. Et puis, je crois que Bruxelles doit aussi faire attention. On a peut-être été trop loin dans le détail. Quand Bruxelles, on comprend très bien pourquoi, quand Bruxelles veut égaliser la concurrence dans tous les pays et qu'elle élabore des règlements, par exemple, pour décider du nombre d'échelons qu'il y a sur une échelle pour ramasser les fruits, on n'en a peut-être pas tout à fait besoin tout de suite de cela, hein. Ça c'est clair. Donc il y a beaucoup de réformes à faire et d'une façon plus générale, je crois que l'Europe a été trop ultralibérale depuis 20 ans et que face à la mondialisation, il fallait davantage protéger l'Europe. Mais là aussi, il faut savoir ce qu'on entend par Europe. Vous comprenez, si les États n'arrivent pas à se mettre d'accord pour que l'Europe protège, eh bien on ne protège pas. Il y a j'ai des cas précis où j'ai vu que, par exemple, quand l'Europe voulait avoir des douaniers pour avoir une frontière extérieure commune, eh bien, c'est les États qui n'ont pas voulu. Ils ont dit non, nous, on veut garder nos douaniers, puis c'est nos douaniers qui vont s'en occuper. Et cette co-responsabilité n'a pas marché. Donc, il y a incontestablement des efforts à faire, à la fois pour maîtriser davantage la technocratie. Mais vous savez, la technocratie, elle prend l'espace que les hommes politiques lui ont laissé. Et donc, c'est quand même aux hommes politiques à se charger de cela. Et deuxièmement, il faut qu'on retourne à la source, c'est-à-dire de faire en sorte que les États ne puissent pas, un seul État ne puisse pas bloquer tous les autres avec un droit de veto, par exemple. Or, je ne crois pas qu'aujourd'hui, nous puissions relancer l'Europe à 27. Je pense qu'il faut retrouver un noyau de pays qui sont vraiment et authentiquement européens et qu'ils constituent entre eux l'Europe de l'avant-garde et l'Europe de demain, et que progressivement, les autres seront convaincus et viendront les rejoindre. Mais il faut passer par un noyau de convaincus tout de suite pour leur démontrer que l'Europe est urgente, parce qu'à l'heure des États-continents, à l'heure de la Chine, à l'heure des États-Unis, à l'heure de l'Inde, ce n'est pas un pays seul en européen, même l'Allemagne, qui pourra s'en sortir. Donc c'est une question de survie de nos peuples que de faire l'Europe.
En essayant de construire l'Europe sociale, l'Europe fiscale qui n'existe toujours pas.
Oui, absolument, parce que si vous voulez, comme il faut avoir l'accord de tous, eh bien, il y a des choses qu'on n'arrive pas à transcender. Alors on n'a pas d'Europe sociale. On n'a pas d'Europe fiscale. Quand vous pensez que, par exemple, soi-disant, tous les pays en matière de commerce sont sur le même plan, eh ben oui, en matière de commerce, oui, mais pas en matière de fiscalité. Le taux de fiscalité moyen de l'Irlande est à 12 et le taux de fiscalité de la France est à 33. Comment voulez-vous qu'on arrive à gérer l'Europe dans ces conditions? Donc je ne dis pas qu'il faut un seul taux de fiscalité, mais je dis qu'il faut quand même progressivement aller vers une harmonisation. Et je crois aussi que l'Europe est allée trop vite dans l'acceptation de la mondialisation. Je disais tout à l'heure que l'objectif, c'est important, mais le rythme auquel on va vers cet objectif est tout aussi important. Et parfois, il faut savoir ménager des étapes, aller plus lentement, et puis faire comprendre au peuple pourquoi on le fait, et puis être ferme quand on a décidé de se protéger. Alors on ne l'a pas assez fait. Et il y a eu depuis 30 ans une idéologie ultralibérale qui a tué l'Europe, en tout cas qui lui a fait du mal. Et moi je suis partisan qu'on en revienne un peu à cette Europe, je dirais, que les démocrates chrétiens et que les socialistes comme Jacques Delors voulaient faire, c'est-à-dire une Europe qui soit sociale, une Europe qui soit pas comme à l'image de ce que l'on voit dans le monde aujourd'hui, où une petite minorité de grands financiers gagne autant que la moitié des Européens.
Vous avez regretté aussi le fait qu'il y ait beaucoup de chefs d'État, mais très peu d'hommes d'État, et des chefs d'État qui sont tributaires d'un fameux carré magique.
Oui, absolument. Je crois que j'ai constaté, malheureusement, au cours de ma vie politique, que l'horizon des chefs d'État se raccourcissait considérablement. C'est, comme le disait Churchill, la prochaine élection plutôt que la prochaine génération. Et ça, je trouve que c'est très dommageable, parce qu'on n'entraîne pas des gens, on n'entraîne pas un peuple uniquement à partir de ce carré tragique dont je parlais, c'est-à-dire les sondages, la communication, la tactique électorale, etc. Et on entraîne un peuple, et on a la confiance d'un peuple, finalement, si on a un horizon plus lointain, si on explique le projet, si on rassemble les gens autour de ce projet, bref, si on constitue un véritable roman de pour le pays et que l'on entraîne la population. C'est pas uniquement avec la peur d'envisager l'Europe parce que il y a de moins en moins de gens qui y sont favorables. C'est pas en se dissimulant derrière telle ou telle démagogie que l'on va pouvoir faire repartir cette Europe qui, je le redis encore une fois, est totalement indispensable à mes yeux parce que nous ne pèserons rien et État par État. Même l'Allemagne ne peut pas s'en sortir seule dans la mondialisation. Et je suis certain que si nous voulons avancer, eh bien, il faut que nous nous réunissions. L'union fait la force, c'est tout simplement ça.
Dernière question et une réaction personnelle, s'il vous plaît, face à l'utilisation des fonds européens par des parlementaires d'un groupuscule français, d'un parti politique, pour le nommer, c'est le Front National, qui est anti-européen et qui utilise ces fonds à des fins tout à fait dévouées et pas du tout et dévoyées par rapport à l'Europe, et je parle évidemment de ses assistants parlementaires.
Oui, écoutez, j'ai pris la décision de ne pas commenter toutes ces questions tant que je ne sais pas exactement ce qu'il en est au niveau de l'enquête que fait le Parlement européen d'une part et des enquêtes qui sont faites dans d'autres pays, comme vous le savez. Donc, si effectivement les faits s'avèrent exacts, je ne peux que les condamner fermement. Je crois d'ailleurs que pour ce qui concerne notre pays, mais peut-être aussi pour d'autres, il ne faut pas avoir peur de redire que la morale est quelque chose d'important. On a un peu perdu l'habitude de parler de la morale. La morale, c'est un peu comme l'Europe, on n'ose plus trop en parler. Et on a l'impression que c'est quelque chose qui avait cours dans deux ou trois générations avant nous et que finalement, c'est pas tout à fait l'essentiel. Moi, je crois qu'il faut, sans vouloir être réactionnaire, vous savez que je suis pas du tout un réactionnaire, je crois qu'il faut quand même que nous réfléchissions à nouveau sur la morale, sur la façon dont la famille, les associations peuvent créer un climat tel que les jeunes se rendent compte que c'est naturel que de respecter la morale.